Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Et ça commence maintenant. Bienvenue sur Fréquence Mistral en direct de l'antenne de Digne-les-Bains pour ce mag à la bonne heure. Et tout de suite, eh bien, c'est le moment de retrouver Frédéric G, le directeur de l'UDAF 04, en direct sur notre antenne. Et bien voilà, après cette petite musique de Frédéric Chopin, cette valse numéro 10 en si mineur, nous voilà prêts pour accueillir notre invité, donc le directeur de l'UDAF 04, monsieur Frédéric G, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être dans notre studio pour la première fois. Bonjour Frédéric G.
Bonjour à vous, Frédéric. Après un autre Frédéric, je suis beaucoup moins célèbre que Frédéric Chopin, mais je suis ravie d'être parmi vous à l'antenne.
Voilà, on va parler de l'UDAF un peu, même oui. Si ça peut parler à beaucoup de personnes. Peut-être qu'on ne connaît pas vraiment toutes les fonctions, les missions de l'UDAF. Si vous voulez nous aiguiller un peu sur le droit des familles.
Je vais essayer de faire du mieux possible. Alors effectivement, l'UDAF, Union départementale des associations familiales, déjà au départ, donc créée en 1945, après-guerre, au départ une union nationale des associations familiales, qui est notre tête de réseau, qui est située à Paris, qui se décline au niveau départemental. Donc chaque département a une UDAF, Union départementale des associations familiales, destinée effectivement, vous venez de le citer, principalement, initialement, à la représentation familiale. Voilà, donc l'UDAF des Alpes de Haute-Provence a été créée en 1945 avec une publication au journal officiel en mars 1946. Voilà, je regarde un peu mes antisèches en même temps. Donc l'idée, c'est de fédérer des associations principalement et de pouvoir les accompagner qui ont un objet familial et qui ont une démarche de représentation, en tout cas d'action prioritairement auprès des familles. Donc c'est 40 associations familiales qui adhèrent donc à l'UDAF des Alpes de Haute-Provence. Sans doute pourrions-nous en avoir plus. Il se trouve que l'UDAF actuellement est dans une démarche de communication. On va lancer ce projet et ce programme en 2025 pour pouvoir mieux nous faire connaître et puis convaincre aussi des associations qui ont un but familial de pouvoir adhérer à l'UDAF, puisque avec l'adhésion à l'UDAF, eh bien, ça permet aussi d'avoir un accompagnement, de bénéficier aussi d'une subvention qui vient donc de notre tête de réseau national qui vient de l'UNAF dans ce cadre-là, et puis d'avoir aussi une meilleure représentativité. Donc 40 associations familiales et deux fédérations donc, qui adhèrent à l'UDAF des Alpes de Haute-Provence. Je dirais que c'est pas si mal aussi pour un grand département en termes géographiques, mais un des plus petit département en termes de poids de population. Voilà, ça montre qu'il y a un vrai dynamisme, en tout cas associatif, sur ce département. Donc on va retrouver des associations très variées adhérant à l'UDAF, comme Cœur Lavande, Le Point Rencontre, l'APF, donc l'APF, Association Paralysée de France, l'AFAVEC, qui est l'Association des Conjoints Survivants, l'ADMR, donc là pour accompagner les personnes
âgées.
À domicile, les personnes âgées. Voilà, donc des associations avec un but étendu qui vont aussi bien de la petite enfance, parce qu'il y a aussi des crèches, jusqu'à l'accompagnement et la fin de vie avec l'association JALMAV, qui est une de nos dernières adhérentes.
Ah, mais qui viennent régulièrement nous donner des informations, JALMAV, jusqu'à la mort, accompagner la vie.
Tout à fait.
Voilà. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'associations partenaires, enfin oui c'est ça, elles sont...
Qui sont adhérentes tout adhérentes. À fait et qui sont partenaires puisque en adhérant à l'UDAF, il est possible d'avoir une représentation au sein du conseil d'administration et après de briguer un mandat électif, donc d'être au pilotage de l'UDAF. Voilà, ces associations adhérentes font partie du pilotage et mettent leur couleur. Donc, dans les orientations de l'UDAF, qui initialement sont prévues par les textes, hein. L'UDAF, c'est de représenter avant tout les intérêts matériels et moraux des familles, de donner avis au pouvoir public. Nous sommes recensés dans le Code de l'action sociale et des familles, et puis de pouvoir gérer tout service d'intérêt familial. Donc, le deuxième pan, spécifique de l'UDAF, c'est outre la partie adhésion et représentation des associations familiales, c'est de pouvoir gérer des services à l'attention des familles, à l'attention de publics en difficulté, à l'attention de publics vulnérables.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des animations tout au long de l'année où les parents sont conviés, vous avez un listing
Alors, bien sûr, il y a des animations tout au long de l'année. Tout dépendra des services. Je pense principalement au REAP, au réseau d'écoute, d'animation et d'appui des parents, qui désormais change un peu de casquette et prend la dénomination de soutien à la parentalité, où il y a toute une programmation dans le cadre donc d'une animation qui s'appelle Parents à hauteur d'enfant. Et nous allons retrouver au cours de cette programmation des ateliers, des conférences à l'attention des parents, justement, pour leur permettre d'échanger entre eux, d'être associés sur des problématiques. Je pense entre autres à une programmation qui a eu lieu au mois d'octobre-novembre l'année dernière, avec une comédienne au centre Romain-Néchard, Erika Leclerc-Marceau, qui s'appelait « Ma non-violence ordinaire ». Et c'était un petit peu prendre à contre-pied toutes les émotions que l'on a en tant que parent, et puis pouvoir se dire qu'on n'est pas seul dans cette situation, et que par moments on pense faire bien, on fait pas forcément très bien, et puis parfois on va se dire je fais pas forcément bien, et puis finalement on réagit comme n'importe quel parent. Donc ça permet d'avoir autour de ces programmations des échanges entre parents, et qui nous renvoie à des situations parfois de la vie quotidienne, en tout cas pour permettre de mieux accompagner et d'avoir du relais, puisqu'il existe des dispositifs que les parents ne connaissent pas forcément. Donc là, c'est la programmation dans le cadre de l'action à la parentalité. On aura une grosse programmation au mois de novembre prochain au Palais des Congrès. C'est dans le cadre de l'usage numérique responsable, où là, avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage numérique pas forcément à bon escient, je ne parle pas là dans un cadre scolaire, nous inviterons le plus grand nombre à venir participer autour d'ateliers numériques destinés à mieux appréhender, parce que souvent la difficulté c'est je fais pas bien pourquoi, ou je pense faire bien et alors que je suis pas dans les clous, mais parce qu'on ne sait pas forcément appréhender, c'est des questions de génération, l'outil numérique. Donc ça fait partie des éléments de programmation. On aura une autre programmation aussi à l'attention là des familles.
Et parce que ça, c'est au mois de novembre, on a le temps.
On a le temps. Là, ce sera au mois de mars, en partenariat avec d'autres associations qui sont la PAJH et la TAP, est menée par l'association...
Qu'est-ce que c'est,
la PAJH? Alors, la PAJH, c'est une association qui accompagne principalement des personnes en situation de handicap. Voilà. Et la TAP, c'est l'association tutélaire des Alpes de Haute-Provence, autour de la semaine de la protection juridique des majeurs, pour pouvoir, c'est le 7 mars prochain, c'est principalement destiné à l'attention des professionnels, mais aussi des personnes qui accompagnent, des membres de leur famille, avoir un focus sur l'exercice des mesures de protection juridique. Et après, toute la programmation du REAP, effectivement, là, je vous donnais des exemples entre mars et novembre, il y en a beaucoup d'autres tout au long de l'année, et je vous conseille là d'aller soit sur le site internet de l'UDAF, Voilà, qui met à disposition un certain nombre d'éléments sur ses programmations et puis qui va reprendre l'activité de nos services et ce qu'elles peuvent proposer à l'attention des familles ou des professionnels, et puis d'aller sur le site du Réap. Donc là, c'est la page Facebook qui reprend l'ensemble des programmations à l'attention, là aussi, des familles.
Alors, il y a de plus en plus de familles monoparentales, et donc il y a aussi de plus en plus de personnes peut-être en galère dans l'éducation des enfants. Donc, c'est important de savoir qu'il y a des associations qui peuvent aider à mieux gérer l'éducation des enfants.
Tout à fait. Et puis, si l'UDAF n'a pas la réponse, il ne s'agit pas d'avoir la réponse à tout. Dans le cadre du Réap, Action Soutien à la Parentalité, c'est avant tout de l'animation de réseau, c'est de pouvoir orienter vers le bon dispositif, vers la bonne association.
Le Réap, c'est donc
le réseau d'écoute, d'appui et d'animation
d'appui des parents.
Des parents.
Ouais. Et c'est Alexandra Montoya qui
voilà,
s'occupe...
Que vous avez peut-être déjà reçu,
voilà.
Qui s'en occupe et qui change de dénomination et qui va être désormais sous une, je dirais, une dénomination peut-être un peu plus parlante, Action de soutien à la parentalité, le soutien à la parentalité. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est une nouveauté pour 2025. Après, l'UDAF, c'est aussi un champ d'éventail, hein, d'éléments, de services à disposition des familles. Et nous avons 9 services au sein de l'UDAF. Donc nous avons un pôle, je dirais, protection des personnes vulnérables avec la protection juridique des majeurs. Là, on est un peu plus désigné par le juge des tutelles, hein, qui est plus connu sous cette dénomination-là sur les mesures de tutelle et curatelle. Mais nous intervenons auprès des familles lorsqu'elles sont en soutien de leurs proches et lorsque ce sont elles qui sont désignées. Donc nous sommes dans ce cadre-là en intervenant sur l'intervention, ce qu'on appelle l'ISTF, donc le soutien aux tuteurs familiaux, l'intervention au soutien aux tuteurs familiaux. Donc nous pouvons donner des conseils pour établir des compte rendu de gestion, pour établir une requête en déplacement de fonds à l'attention du juge, ce qui est notre quotidien professionnel et ce qui va apparaître un peu barbare parfois pour les familles. Donc les accompagner dans ce cadre-là. Et nous avons des permanences au sein du DAF.
Donc c'est le côté juridique. Quoi,
voilà, le côté juridique. Toujours dans le côté juridique, nous accompagnons aussi là, les familles lorsque nous sommes désignés par le juge des tutelles mineures, le juge pour enfants ou sur désignation du procureur de la République pour accompagner les mineurs dans le cadre d'administration ad hoc. Donc malheureusement, c'est aussi quelque chose qui tend à se développer lorsque nous sommes en représentation civile pour défendre les intérêts civil du mineur, donc lorsqu'il a été victime d'un délit, d'un crime, pour pouvoir faire valoir droit à une garantie de procédure ou à une demande de dommages et intérêts le concernant, et puis désormais lorsqu'aussi le mineur est auteur, et pouvoir l'accompagner à une juste représentation dans le cadre de la procédure dont il fera l'objet. Donc ça, c'est notre partie protection juridique. Notre partie action familiale, on en a un petit peu parlé, avec le soutien à la parentalité ex-REAP. Nous avons aussi une action Lire et faire lire, donc qui est animée par une chargée de mission qui coordonne des bénévoles.
Sandrine Berger.
Des bénévoles là, de plus de 50 ans pour faire partager le goût à la lecture, aux belles histoires. Donc on a une très belle documentation au sein de l'UDAF, hein, avec un nombre d'ouvrages importants, donc principalement auprès des écoles, et pouvoir prendre un temps dédié à la lecture. Sandrine Berger est toujours, elle, en pilotage de l'usage numérique responsable, dont je vous ai parlé préalablement. Et puis, nous avons une activité qui reprend bien au sein du DAF, une heure pour un enfant. Donc, c'est une nouvelle chargée de mission qui s'en occupe depuis la dernière rentrée scolaire. Donc,
ça existe depuis longtemps.
Qui existe depuis longtemps.
C'est un accompagnement personnalisé, c'est
Alors,
ça de...
C'est un accompagnement qui peut être soit individualisé, soit dans le cadre de groupe, au niveau d'un dispositif qu'on appelle le CLAS. Donc, le CLAS, c'est le contrat local d'accompagnement scolaire et qui permet sur des quartier défini en priorité, de pouvoir proposer non seulement une activité de soutien scolaire, mais aussi une activité d'éveil donc à l'enfant et en touchant aussi les parents donc dans le cadre de la cellule familiale. Donc on a eu quelques difficultés avec cette activité à la sortie du Covid. Ça reprend bien. Aujourd'hui, il y a une soixantaine d'enfants qui sont accompagnés soit dans des accompagnements individualisés, soit dans des cadres, dans le cadre de groupe, mais c'est vrai que on est obligé de mettre des enfants en liste d'attente. On aurait plus de demandes. Hein. Il y a facilement 10-12 enfants qui sont en attente actuellement parce que nous manquons de bénévoles. Donc l'occasion m'est donnée de faire un appel aux bénévoles. C'est très sympa. Moi, je vais y participer mercredi prochain. Déjà parce que c'est donner son temps à l'attention d'enfants qui sont impliqués dans une démarche d'amélioration de leur parcours scolaire, qui sont attentifs au rendu de leurs devoirs et aux échanges qu'ils peuvent avoir avec des bénévoles en dehors de leur structure familiale. C'est parfois plus facile de parler à un bénévole qui va nous accompagner. Là, il n'y a pas de limitation d'âge. On peut avoir 20 ans comme on peut en avoir 70.
Est-ce qu'il y a une formation préalable pour devenir bénévole?
Elle est en cours, donc une fois que le bénévole est recruté, il y a une formation, mais comme dans le cadre de Lire et faire lire hein, qui est proposé, il y a un pilotage avec la chargée de mission. C'est Sonia Marcinkal, hein, la chargée de mission, et je ne saurais trop vous conseiller que d'aller vous renseigner sur le site d'internet de l'UDAF et de voir comment, si vous en êtes tenté, vous pouvez franchir le pas. En tout cas, au sein de l'UDAF, on sera heureux de vous accueillir et on vous accompagnera du mieux possible, justement, auprès de ces enfants, afin de ne pas les laisser sur liste d'attente. Il y a un vrai besoin. Et puis il y a des animations à côté de ça qui sont très sympas. On a fêté un très beau Noël voilà, avec les parents des différentes familles qui ont amené des spécialités de leur région, de leur pays. Ça nous a permis de passer un bon moment de convivialité. Il y a aussi des temps de convivialité qui sont très importants avec des visites, une visite de musée, voilà, avec ça peut être une sortie cinéma. Je disais que dans le contrat local d'accompagnement scolaire, dans le classe, il y a l'accompagnement aide au devoir, mais ce n'est pas que de l'aide au devoir, je tiens à le préciser, c'est aussi de l'éveil sur tout ce qu'il est possible de faire pour pouvoir trouver un goût à la lecture. Il y a eu l'année dernière l'accompagnement aux échecs, voilà, un ensemble de dispositifs qui sont proposés aux enfants.
Échecs, aux jeux d'échecs.
Au jeu d'échecs, tout
voilà.
À fait.
Voilà. pas dans les échecs qu'on peut vivre.
Non, du voilà. Tout. À côté d'autres activités au sein de l'UDAF, hein, qui sont plus nouvelles depuis mon arrivée, je m'en félicite, non pas de les avoir mis en place, mais qui m'ait été donné l'opportunité au sein de l'UDAF de les mettre en place. On a une activité d'accompagnement dans le logement pour les personnes vulnérables ou les familles en difficulté. Et dans la gestion budgétaire, donc initié au départ par l'accompagnement des familles ukrainiennes dans le cadre de l'intermédiation locative, donc il s'agissait de prendre des baux en sous-location pour les personnes déplacées d'Ukraine à ce moment-là, et puis pouvoir les reloger dans le secteur. On a accueilli quand même de nombreuses familles ukrainiennes. L'UDAF des Alpes d'Haute-Provence, mais comme d'autres associations dans le secteur, hein, ont été partie prenante au sein du département pour pouvoir reloger transitoirement ou de façon plus durable des familles dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on a une activité accompagnement vers et dans le logement qui s'adresse aux personnes qui sont en situation d'endettement de loyer ou en voie éventuellement d'expulsion de leur logement. Donc nous sommes désignés par les services de la DETS, donc sont les services de la préfecture, pour pouvoir accompagner ces familles, soit dans un maintien dans les lieux, soit dans le cadre d'un relogement, dans le cadre public ou dans le cadre privé. Donc ça peut être 12 situations familiales que nous accompagnons dans ce cadre-là. Et puis, dans le même ordre d'idées, nous avons des permanences point conseil budget dans un lieu tout à fait neutre au sein de l'UDAF, sur Digne-les-Bains ou sur Barcelonnette. Aujourd'hui, c'est le cas à Barcelonnette, au sein de la Maison France Service, où sont des permanences qui sont libres d'accès, où des familles, des personnes peuvent nous rendre visite pour une situation de négociation de crédit, pour une situation de négociation d'échéancier auprès d'un fournisseur d'énergie, pour l'aide au montage d'un dossier de surendettement. C'est notre mission première, nous les accompagnons dans ce cadre-là à ne pas s'enfoncer dans une situation. Ça peut être simplement un rendez-vous ou beaucoup plus de rendez-vous qu'en fonction de la nécessité de la situation, jusqu'à l'accompagnement devant une audience, devant le juge, donc des libertés, du contentieux et des libertés, justement pour pouvoir, qui prendra sa casquette de juge du surendettement, pour pouvoir avoir un plan de surendettement qui soit le plus favorable possible à la personne. Voilà.
Et je sais qu'il y en a des surendettements de plus en plus. Donc c'est un nouveau dispositif que vous avez mis en place.
Tout à fait. En œuvre AVDL et PCB, ces deux dispositifs sont en œuvre à l'UDAF depuis début 2024. Mmh. Voilà. Et ils rencontrent beaucoup de succès avec des permanences PCB ou pour une année d'ouverture sur Digne, c'est plus de 70 personnes et une cinquantaine de familles qui ont été touchées, en tout cas, qui ont pu être accompagnées plutôt par le dispositif Point Conseil Budget. Là aussi, ça permet de point d'actualité, il y a trois associations dans le département. Je vais faire un peu de la pub pour Logia, pour le Point Rencontre, puisque ce sont des actions qui sont territorialisées, et l'UDAF, donc qui vont proposer un forum, donc Point Conseil Budget, dans la salle Osso-Manosco de Manosque, au mois d'avril, au mois d'avril prochain, mais je n'ai plus le jour en tête exactement, mais là aussi je vous renvoie vers le site internet. Une journée à l'attention des professionnels, à l'attention des familles, proposons différents ateliers sur comment faire des économies, par exemple, avec en réapprenant des bases de cuisine plutôt que d'acheter des plats tout faits. Tout le monde n'est pas comme j'aime à la maison, hein, et heureusement. De pouvoir aussi avoir une sensibilité autour d'un atelier sur les questions d'assurance, sur les questions de gestion budgétaire classique, et de pouvoir avoir au cours de clôturer cette journée par une conférence. Et nous attendons là aussi le plus grand nombre, en partenariat avec les deux autres associations du département, de participants, puisque c'est un dispositif qui est insuffisamment connu et qui est gratuit, je le précise, ça c'est important. Ce sont vraiment des conseils gratuits pour accompagner au mieux les familles. Parfois on voit tout simplement que la difficulté budgétaire, elle est liée à une méconnaissance de ses droits, il y a de ses ouvertures de droits, et notamment du passage d'une activité professionnelle au passage à la retraite. Voilà. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres.
Donc, pour avoir tous ces conseils, si les gens n'utilisent pas encore bien le numérique, il y a des permanences à l'UDAF à Digne.
Des permanences physiques, tout à fait.
Il suffit de se présenter.
Oui, et de demander à l'accueil de l'UDAF où se situe la permanence. Donc, principalement, les permanences ont lieu le mardi et le jeudi sur Digne. Sur Barcelonnette, il y a un calendrier auprès de la Maison France Services.
Voilà. L'adresse de l'UDAF à Digne, c'est
39 boulevard Victor Hugo.
39 boulevard Victor Hugo.
Et les permanences se situent 26 avenue du Charrois.
Oui, c'est presque en face de l'ancienne...
Alors, il y a Domitis qui n'est pas très loin.
Voilà.
Voilà, pour les personnes âgées. Et puis...
Les syndicats, non ? Il y a le bureau des syndicats, non ?
Peut-être. Vous m'en dites pas dit moi depuis très longtemps, vous m'excuserez.
C'est pas grave. Bon, c'est sur le boulevard Victor Hugo, au 39.
Exactement, voilà.
Okay. Et l'avenue des Charrois, c'est pas très loin non plus.
Non, c'est pas très loin. C'est à 5 minutes à pied pour avoir une permanence dans un lieu neutre où les personnes qui viennent librement sans être identifiées par un tiers. Mmh. Voilà. C'est ce qu'on tient à de la confidentialité dans le cadre de l'échange des données. Et puis, dernière activité de l'UDAF, qui est une belle activité aussi, hein, c'est une activité qui est ouverte en 2023, qui consiste à accompagner des personnes dans le cadre de troubles mentaux pour leur éviter des hospitalisations à l'hôpital psychiatrique, hein, comme cela malheureusement a pu être démontré dans le cadre de leur parcours. Et cette activité donc, se situe à Riez, puisque nous louons un immeuble à Riez avec 6 logements. Donc nous sommes locataires principaux et nous soulouons ces logements donc à l'attention de personnes qui ont le désir d'être accompagnées dans le cadre d'une vie en autonomie. Donc nous avons 2 animateurs à la vie sociale qui accompagnent 6 personnes. Donc 4 sont en colocation, 2 autres sont en logement autonome. Il y a une famille ukrainienne donc au sein de ces 6 logements, puisque là nous en sommes à 5 logements, et le 6e en fait c'est une salle commune qui permet très belle salle d'ailleurs, avec une belle terrasse qui permet de partager des temps de repas en commun, pour ceux qui le souhaitent, des temps d'activité en commun, tout en ayant son chez-soi au sein de cette petite ville de Riez, qui a des commerces à proximité, et en partenariat avec une autre association qui s'appelle le Moulin Imaginaire, qui porte une activité qui est le Mondial Relais, où participent la plupart des colocataires, et qui sont appelés les copilotes, et des locataires au sein de ce bâtiment, qui leur permet de tisser du lien social et aussi d'avoir une véritable utilité professionnelle avec la réception, la délivrance de colis. Et Dieu sait qu'aujourd'hui ça marche, ce type de moyens de recevoir, surtout quand on n'a pas de magasin à proximité, des effets, ou de pouvoir les renvoyer sur différentes plateformes.
Donc ça, c'est à Riez.
Ça, c'est à Riez.
Un bâtiment avec des logements.
Des logements autonomes, une cellule partagée qui permet à des personnes qui souhaitent vivre en autonomie, mais en étant accompagnées dans son quotidien.
Ça s'adresse à des personnes qui sont handicapés mentaux.
On peut dire ça, avec des troubles psy, tout à fait, handicap mental.
Voilà, mais ça n'existe pas pour des personnes âgées, par exemple.
Pas encore, mais je peux faire un appel. Auprès des pouvoirs publics, l'UDAF serait prête à accompagner ce type de projet, pour des personnes âgées, bien sûr, et dans et ce serait un palliatif à l'entrée. En établissement, et ça permettrait de rester en étant accompagné le plus longtemps possible dans le cadre d'une unité partagée, en ayant son propre chez-soi.
Voilà. Il y a vraiment des choses à développer, et de plus en plus, je vois par rapport aux personnes âgées qui sont pas encore prêtes pour et qui n'ont pas forcément de place non plus dans les EHPAD, d'avoir... quelque chose de où elles sont ni chez elles ni ni en
voilà une structure hybride et voilà. Aujourd'hui on est beaucoup dans l'hybridation de systèmes techniques. Il faut aussi penser à l'hybridation du social. L'EHPAD, on peut être âgé et pas avoir envie d'y aller. On peut ne pas répondre à certaines conditions ou avoir de place, puisque si on attend une place à l'aide sociale alors qu'elle est payante, ses moyens ne le permettent pas forcément. Et on peut avoir envie de rester chez soi tout en voulant ne pas être seul, tout à fait, et avoir une structure qui soit porteuse d'un projet, qui soit accessible aussi financièrement. pas avoir besoin forcément d'une présence, je ne vais pas dire 24-24, mais 8 heures sur 24, ou avoir une présence de quelques heures, Et puis de pouvoir surtout avoir des activités partagées, parce que c'est ça qui est important. Et on le voit avec l'exemple de Riez, avec les personnes qui sont atteintes de troubles psy, elles partagent des activités en commun. Et ça, c'est primordial, lutter contre l'isolement individuel, l'isolement social. C'est ce qui nous permet d'avoir une meilleure image de soi, d'être reconnu dans son utilité, dans ses compétences, dans sa capacité à faire. Et ça fait du bien. Et le soin passe par ça, passe par, l'estime de soi, être reconnu par des tiers, comme il passe aussi par réapprendre à cuisiner. Les temps de repas sont très importants. Réapprendre à manger correctement. Voilà. C'est pas aussi que des traitements chimiques ou médicamenteux.
Eh oui. Eh bien, voilà, que de belles missions de l'UDAF. Est-ce qu'on a fait le tour des 9 services
On en a fait, j'espère qu'on en aura d'autres. J'espère qu'on va pouvoir porter le plus activement possible. En tout cas, j'ai des équipes qui sont convaincues, qui sont sur le terrain.
Voilà. Ça représente combien de salariés?
Il y a actuellement 32 salariés au sein de l'UDAF. Mm-hmm. Voilà. Donc 32 salariés qui travaillent de façon très impliquée dans le cadre des différents dispositifs que je vous ai évoqués.
32 salariés, c'est pour l'UDAF 04.
Oui, l'UDAF 04, oui, tout à fait.
Des Alpes-de-Haute-Provence, comme on est dans le magazine régional, est-ce que vous voulez dire un mot aussi de l'UDAF des autres départements? Je ne sais pas si vous êtes en lien avec eux.
Alors, nous sommes en lien avec les autres UDAF. On a fait partie, l'UDAF 04, mais on vient de s'en retirer d'une union régionale des associations familiales, URAF, est en cours d'évolution sur la préparation de nouveaux projets, donc qui seront peut-être là nouveau à destination au sein de l'UDAF des Alpes-de-Haute-Provence. Les autres UDAF, nous travaillons en bonne intelligence avec elles. J'ai régulièrement moi des échanges, pas plus tard que ce matin, avec un autre de mes collègues. Nous avons des projets communs, on a des réunions de direction, on a des réunions sur des thématiques spécifiques en matière ressources humaines, en matière juridique, en matière gestion des risques, parce qu'on manipule beaucoup de données aussi confidentielles à l'attention des personnes, des données financières. Donc comment on est le plus sécure possible dans nos pratiques à l'attention des familles que nous accompagnons. Donc on a des liens. Particularité du DAF des Alpes-de-Provence, c'est que c'est une petite UDAF par rapport à d'autres UDAF, comme les DAF des Bouches-du-Rhône, hein, qui va avoir 120 salariés, comme l'UDAF du Var, qui va avoir plus de 100 salariés. Dans un cadre intermédiaire, je pense qu'il y a l'UDAF des Alpes-Maritimes. Je n'ai pas en tête le nombre de personnels, mais qui reste dans les UDAF de moyenne supérieure, alors qu'on a deux très grosses UDAF au niveau national avec le 13 et le 83. On va un peu plus se rapprocher de la taille de l'UDAF des Hautes-Alpes. Voilà, on est à peu près sur des champs de compétences et puis un nombre de publics équivalent au niveau de nos deux UDAF. Voilà. Et on a des territoires géographiques qui sont peut-être un peu plus proches, même si désormais l'UDAF des Hautes-Provence, et c'est une nouveauté, a ouvert son antenne à Manosque donc depuis le mois d'août 2024 et qu'elle est opérationnelle depuis le mois de septembre. Donc on peut avoir des liens de proximité, bien sûr, avec le nord du 13 dans ce cadre-là. Et ça n'a pas manqué, puisqu'il y a depuis peu, c'est au mois de décembre 2024, nous avons été convoqués dans le cadre d'une réunion par les chefs de juridiction à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir comment on pouvait favoriser nos collaborations de travail, peut-être sur des territoires qui sont plus en lien donc avec le secteur géographique dans lequel nous avons désormais cette antenne.
Et au niveau d'une idée du nombre de familles que l'UDAF accompagne.
Alors, une idée au niveau du nombre de familles, alors je ne l'ai pas forcément en tête, mais parce que c'est très variable au niveau des actions soutien à la parentalité. On ne fait pas forcément d'éléments de statistiques, mais je crois que de mémoire, j'avais vu qu'on était à peu près sur un peu plus de 220 familles, hein, de bon an, mal an, parents de toucher. Mais c'est vrai que dans la transversalité de nos actions familiales, on ne va pas forcément... Alors, c'est des choses à mettre en place, hein, mais peut-être avoir suffisamment... On n'a pas encore suffisamment d'éléments statistiques sur les familles qu'on peut toucher dans le cadre du point conseil budget, qu'on va toucher dans les actions à la parentalité, qu'on peut toucher dans la formation et soutien aux tuteurs familiaux. Voilà. Je pense que si on fait... on a des faisceaux d'indices, mais on n'a pas encore suffisamment convergé toutes nos données à ce niveau-là. Ça fait partie des points d'amélioration que l'on a.
Est-ce qu'il y a un détail important qu'on aurait oublié, une question que vous attendez?
Alors, pas de détail, juste ce que je souhaite rappeler, c'est que On a le maximum d'actions à l'attention des familles et on a besoin des familles. Et donc, dans les familles, il peut y avoir des bénévoles potentiels. Donc, on a aussi besoin des bénévoles pour pouvoir nous aider à développer des actions à l'attention des familles, puisque l'UDAF, c'est une structure, je vais peut-être terminer mon propos par ça, mais association loi 1901, à but non lucratif, qui a une représentation d'utilité publique, donc auprès des familles. Donc j'ai envie de dire, famille, saisissez-vous de l'UDAF. Ce sera mon mot de la fin.
Frédéric G, merci. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi un lien fort avec la CAF.
Bien sûr, les services de la préfecture, de l'État, la CAF, le conseil départemental, la MSA sont des, j'en oublie peut-être, mais la politique de la ville sont des partenaires financiers, mais aussi partenaires indispensables au quotidien pour nous permettre donc de proposer ces différentes missions et les mettre en œuvre autour des services. Sans ces partenaires, ce ne serait que des intentions de papier. Concrètement, elles sont mises en œuvre grâce aux partenaires institutionnels que je vous ai cités.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, on trouvera cette émission donc en ligne sur notre site www.fréquencemistral.com. Et puis, ben, vous revenez quand vous voulez.
Avec grand plaisir. Vous avez envie très bien accueilli. Et merci pour le café.
Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.